Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, marhaba bikoum sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, les ondes de la conscience sur Radio Alger Chaîne 3. Cette même conscience pour laquelle se battent les justes dans le but qu'elle reste vivace et que les peuples du monde se réveillent de leur torpeur. Vous ne vous êtes pas trompés de programme, chers amis auditeurs, c'est Au cœur de l'islam qui commence à l'instant et nous parlons bel et bien du fait religieux. Nous n'avons pas changé de topic. Sachez que l'islam ne peut être qu'un état de conscience et de lucidité accrue, même si le comportement que nous voyons aujourd'hui chez le musulman dit tout, absolument tout de lui, sauf le fait qu'il soit un musulman. Et souvent autour de nous d'ailleurs, nous nous sommes posé cette question, qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui ? Un musulman qui sème la haine et qui contribue à armer des troupes entières et des mercenaires pour faire collapser des états, est-ce cela l'islam ? Comment peut-il se revendiquer de la foi mohammedienne ? Le musulman qui a son frère et qui trouve qu'il est plus proche des bouddhistes, des athéistes et des judéo-chrétiens, ou encore ce musulman qui pratique la spéculation ou tous les autres vices pour contrôler les prix des différents produits nécessaires pour un minimum vital des populations. Franchement, qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman, Kamel Shekat ? Salamu alaikum
wa nasrullahi wa barakatuhu. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses malheureusement.
Mauvaises choses, hein ?
Oui.
Et donc, qu'est-ce qu'être musulman en 2026, Kamel Shekat, 1447 de l'ère égyrienne ?
Vos questions, comme à l'accoutumée, vont toujours dans le même topo, c'est-à-dire que...
Les hostilités commencent avec Kamel Shekat.
Vous demandez aux gens de vous jouer le boléro de Ravel avec un djouak, donc c'est pas évident. Être musulman...
Mais sérieusement, Kamel Shekat.
Être musulman, c'est être fidèle à l'humanité que Dieu a souhaitée pour les êtres humains. Mais à travers un culte, il ne s'agit pas d'être humain uniquement par une pseudo ou soi-disant bonté du cœur. Il faut être humain en étant déjà fidèle à Dieu, en étant soumis à Dieu, muslim. Et ensuite, ce culte que vous rendez à Dieu, partant du verset qui dit « Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar », c'est par ce culte que vous allez devenir un bon citoyen. Tout simplement.
Un bon citoyen, Kamel Shekat, mais qui fait un focus sur ses intérêts et pour lesquels il est capable de tout faire. Hein.
Oui, malheureusement, mais bon. Peut-être que l'approche même qui a été la nôtre concernant l'islam a été biaisée dès le début. Dans la mesure où les musulmans sont absents du fait mondial depuis bientôt 3 siècles et demi. Mais alors, c'est une absence terrible. Et c'est cette absence qui a un peu faussé le jeu. Dans la mesure où, je me souviens, et on en a déjà parlé, dans bon nombre de nos mosquées, on nous a appris quand nous étions jeunes, enfants même, que voilà, la pauvreté, c'était quelque chose de bien. Alors que c'est faux. Le mu'min al-qawi khayr min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. Le musulman fort est meilleur que le musulman faible. Et en toute chose, il est meilleur que lui. La vision, le paradigme même a été biaisé par un discours religieux qui nous a mis dans l'état dans lequel nous nous retrouvons actuellement, à savoir une indigence intellectuelle terrible.
Mabrouk alaykoum Shahr Sha'ban, le 8e mois du calendrier lunaire, le calendrier égyrien, un mois qui nous sert d'exercice et qui nous aide ou qui aide les musulmans à se familiariser avec ce pilier de l'islam ô combien important et qui, à lui seul, est une école du sabre de taqwa et où la spiritualité y est à forte dose. Kamal Shekat, un mot par rapport à ce mois de Sha'ban, comment devrions-nous nous préparer et dans quel esprit?
Déjà, sur le plan légal même, sur le plan licite, pour la détermination du croissant de lune annonçant le début du mois de Sha'ban et
mettant,
oui, l'observation du mois, Sayyida Aisha, dans ce qui est rapporté dans Sahihain, disait, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لغيره. Il accordait plus d'attention à Sha'ban que ce qu'il n'accordait aux autres mois. Pourquoi? Parce que c'est à partir du début de ce mois qu'on allait pouvoir compter, pour surtout pour la fin. Parce qu'à la fin, si le temps était couvert, etc., il complétait à 30 jours le nombre des jours du mois de Sha'ban. Donc c'était un mois qui était déterminant quant au début, à l'annonce même du mois de Ramadan et à sa fin. Mais durant ce mois, nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, bien que ce ne soit pas un mois sacré, il jeûnait fortement, il multipliait les jeûnes surérogatoires, les œuvres de bien, etc., les bonnes œuvres de manière générale, parce que c'était de cette façon qu'il se préparait au mois de Ramadan.
Kamal Shekat, on doit continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, on a évoqué lors de l'émission précédente le voyage nocturne et l'ascension de Sidna Rasulullah, l'Isra wal Mi'raj, qui s'est déroulé le 27 Rajab.
Oui.
Une semaine après, nous continuons d'en parler, même si véritablement nous avons produit énormément d'émissions à ce sujet, et même l'Isra wal Mi'raj vu par les Occidentaux et les premiers traducteurs donc de toute la culture musulmane.
Oui.
Alors, le voyage nocturne s'est déroulé à un moment très complexe et difficile pour le prophète al-Islatu Islam et ses disciples, ce premier noyau de l'islam qui était important à bien des égards. Alors, parmi les leçons intemporelles de l'Isra wal Mi'raj, certains articles nous parlent de la foi, de la persévérance face à l'épreuve, bien sûr, après la perte et le chagrin. Pour le prophète al-Islatu Islam, il y a eu cette consécration, il y a eu cette bouchra. On a aussi l'histoire de la prière, Kamal Shekat. Là, c'est une dimension spirituelle et théologique de cet événement. Il y a l'unité des prophètes et cette fameuse prière guidée par le prophète al-Islatu Islam.
Absolument.
Prière menée en congrégation avec tous les prophètes et messagers de Dieu Subhanahu. Là, le message est encore très, très fort.
Oui, absolument.
Ça veut dire,
écoutez, oui, ça veut tout simplement dire que la religion de Dieu est une inna dina indallahi l'islam.
D'accord.
Et je ne sais pas
pas ce que disent certains frères en humanité, Kamal Shekat, parce que justement, on parle aussi de la confirmation du statut sacré de Jérusalem pour les musulmans, alors que nous avons un prêtre qui dit que l'Isra ou le Mi'raj n'a jamais eu lieu du moment qu'il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem.
Parce qu'il se fie au verset Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan.
Donc non seulement l'événement n'a pas eu lieu et le Coran dit des mensonges. Alors je vous fais écouter, chers amis auditeurs, ce fameux prêtre qui nous informe ou qui déconstruit carrément, qui déconstruit cet événement et
il
la véracité.
Il ne le déconstruit pas, non. Il fait les beaux yeux à ses maîtres, les sionistes. Tout simplement. On appelle cela de la prostitution religieuse.
Religieuse.
Oui.
On écoute Kamal Shekat et on reviendra avec votre avis sur la chose.
Plutôt diatribe.
Diatribe. Oui. Super. Bonhomme des diatribes dans le cœur de l'islam. On écoute.
La sourate 70 commence par l'évocation d'un mystérieux et nocturne voyage de Mohammed depuis la mosquée sacrée, identifiée traditionnellement avec la mosquée Al-Haram de la Mecque, jusqu'à la mosquée très éloignée, identifiée traditionnellement avec la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, encore appelée mosquée d'Omar. Car en effet, c'est le deuxième calife, Omar, qui conquit Jérusalem en 638, c'est-à-dire 6 ans après la mort de Mohammed. C'est-à-dire que Mohammed n'a jamais pu venir à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem puisqu'il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem avant la venue de Omar en 638. Lorsque Omar est arrivé à Jérusalem, il a trouvé, à l'emplacement de l'actuelle mosquée Al-Aqsa, une église qui s'appelait Sainte Marie de Justinien, en l'honneur de l'empereur régnant au VIe siècle. Et c'est le gouverneur de Jérusalem, Abdelwahd, gouverneur de 705 à 715, qui transforma cette église en mosquée en 711.
Oui.
Alors Kamel Chakat, l'Isra ou le Mi'raj n'a jamais eu lieu du moment qu'il n'y a pas eu de mosquée à ce oui. moment-là. Il y avait une église qui s'appelait Sainte-Marie de Justinien.
D'accord. Écoutez, quand le Coran parle d'un lieu de culte, il nous dit par exemple au verset 40 de Sourate Al-Hajj « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et si Dieu ou si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis ainsi que des églises, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est beaucoup évoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant. Alors, le Coran, il a cette spécificité que de s'adresser aux gens avec des langages qu'ils comprennent. Ce sont les hommes qui ont donné à ces lieux de culte ces appellations. Un ermitage, une synagogue, une église, bon, synagoga, ecclesia, etc. Ça revient pratiquement là, le même sens, c'est la maison de Dieu. Le masajid ou bien le masjid ou bien le masjid ou le jami', c'est aussi la même chose. Maintenant, la religion de Dieu, comment s'appelle-t-elle? Ou comment s'appelait-elle? Nous l'avons déjà démontré avant qu'il n'y ait cette appellation de judaïsme ou de christianisme. La religion de Dieu, comme nous le dit le Coran, « Inna dina indallahi l'islam ». Et concernant cette appellation de musulman, c'est Sidna Ibrahim essentiellement qui l'a institutionnalisé, en quelque sorte. Alors, il existe des traces linguistiques, conceptuelles, dans les langues anciennes, de moslem, moslem, muslim. On retrouve ça dans la tradition judéo-chrétienne, même si le terme ne désigne pas encore une religion institutionnalisée au sens islamique qui est venu par la suite, c'est-à-dire postérieur. On est dans une histoire sémantique qui rejoint le sens de se soumettre à Dieu par ce mot, ce générique islam. Et donc, on va retrouver ce sens dans l'hébreu avec qui signifie entier, complet, intègre, en parlant de se soumettre à Dieu. Dans l'araméen ou le syriaque, on va shlama, qui signifie paix et plénitude. Dans l'arabe, selima, aslama, se remettre, se livrer, être en paix. Donc le sens premier n'est pas paix, mais intégrité, conformité, soumission harmonieuse. Là, je vous parle des Targoum, des Midrashim tardifs, oui. etc. Je ne vous parle pas de l'islam. Donc, dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, on retrouve Shalem, Shalom. Shalom ne signifie pas seulement paix, mais état d'abord total avec la volonté divine. Attention, c'est pas uniquement le Shalom que l'on connaît. C'est ce qui revient à peu près dans la Genèse au chapitre 17, premier verset. « Marche devant moi et sois tamim », c'est-à-dire intègre. Cette intégrité correspond exactement à ce que l'arabe exprimera par islam. Et puis on retrouve aussi dans les l'hébreu rabbinique ou talmudique le mot mushlam qui signifie accompli ou parfait, mashlim qui signifie celui qui complète, celui qui se conforme. Donc ces termes sont sémantiquement équivalents à muslim. Ça va dans le sens de celui qui est conforme ou pleinement conforme à Dieu. Dans la littérature rabbinique, Talmud et Midrash, les rabbins parlent des peuples ou de groupes soumis à Dieu sans référence à une loi mosaïque stricte. C'est pour ça que les marchands du temple, ceux-là même qui nous ont pendu Paul de Tarse,
oui.
Quand ils voyaient les apôtres, ils les traitaient de manière péjorative de moslem. Donc, et on les appelait les muslimaï, pour désigner aussi des monothéistes non-juifs, fidèles au Dieu unique. Donc, le terme, il a existé bien avant la venue de l'islam. Dans la littérature chrétienne, dans le christianisme ancien, en araméen ou en syriaque, l'araméen que parlait Jésus, alayhissalam, on va retrouver meshlem, donc c'est celui qui s'abandonne à Dieu, donc musulman. On va retrouver aussi dans la pshita l'idée que dans cette même logique qui veut que la volonté de Dieu soit faite, c'est l'abandon total. Ça rejoint le concept d'islam. Et puis, les premiers chrétiens se désignaient souvent comme serviteurs de Dieu, soumis à Dieu, pas comme le sens du mot chrétien de manière tardive. Donc, c'est ainsi que l'on va retrouver justement cet islam bien avant, et c'est ainsi aussi que l'on va retrouver ces lieux de culte. Ce que le Coran appelle Masjid al-Aqsa, c'était un lieu où le Dieu unique était adoré de manière exclusive, sans même l'intervention du Fils et du Saint-Esprit. Et là, rappelons que le dogme de la Trinité, il s'est forgé sur pratiquement au moins 200 ans. Ça n'est pas du jour au lendemain que l'on a commencé à parler du Père et du Saint-Esprit. Mais moi, j'aurais aimé que ce prêtre qui fait de la prostitution religieuse pour plaire à ceux qui calomniaient Marie, alayhi salam, j'aurais aimé qu'il commence par défendre l'honneur de Marie et de Jésus qui a été traité de fils du péché et Marie qui a été traitée de prostituée par les rabbins et qui l'est toujours, malheureusement.
Les juifs sionistes l'appellent carrément bâtard.
Oui, le bâtard. J'aurais aimé que cet aplavantriste commence par défendre ce que subissent nos frères en humanité, les chrétiens de Palestine.
Quel est l'intérêt pour ce prêtre, Kamal Shekat, d'occulter ou d'annuler carrément le voyage nocturne et les voyages nocturnes et célestes, alors que nous voyons qu'ils ont été au fil des siècles défendus par les musulmans?
Absolument.
Et même dans cet état, on leur a interdit d'entrer à l'église pour les fêtes de Noël. Hein.
Absolument. C'est parce que cette prostitution est assez lucratif à l'heure actuelle. Vous savez, il y a beaucoup de prêtres que j'entends parler comme ça, et ma foi, je me dis, mais attends, normalement, je ne suis pas censé connaître ces textes fondateurs, c'est-à-dire ces écrits saints mieux que lui. Et là, on a l'impression que ce monsieur n'a jamais lu la Bible.
Oui.
Et on a l'impression qu'il ne connaît pas du tout le judaïsme.
Mais il connaît bien les textes de l'islam.
Oui, bien sûr, parce que ce sont des gens... Vous savez, une fois, je vais vous raconter cette anecdote. Une fois, j'ai été appelé par un prêtre, j'en connais ici en Algérie, qui sont dans l'église, essentiellement l'église catholique, qui me dit, voilà, nous avons un groupe de prêtres qui est venu de l'étranger, ils vont commencer incessamment ici, ils ont été ordonnés prêtres tout récemment et on aimerait bien qu'un théologien vienne discuter avec eux de l'islam. J'ai dit, écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de divergences, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire actuellement. Notre pays subit une vague d'évangélisation essentiellement de la part des protestants et nous savons très bien que la chose ne vise aucunement à évangéliser les musulmans d'Algérie, il faut tout simplement faire d'eux des sans-religions. Là, je m'adresse aux églises protestantes. Vous savez tous, parce que vous carburez, vous fonctionnez selon ce qui a été établi lors de la rencontre du Colorado en 1978, mais n'oubliez pas qu'avant la rencontre du Colorado, il y a eu celle de Jérusalem en 1932, et c'est là que votre Dieu, carrément, c'est un prophète pour vous, Samuel Zwimmer, vous a bien dit: le but n'est pas de christianiser ces musulmans, le but est de faire d'eux des sans-religions. Et vous êtes en train d'œuvrer dans ce sens. Et vous êtes en train de rejoindre ce qui a été synthétisé par Jomo Kenyatta, qui a dit, en parlant de ces évangélistes, quand ils sont venus chez nous, ils avaient leurs évangiles entre les mains, nous avions nos terres entre les nôtres, ils nous ont appris à prier les yeux fermés, quand on les a rouverts, on s'est retrouvés avec leurs évangiles entre nos mains, et nos terres entre les leurs ou en leur possession. Donc, Le problème est toujours le même. Alors, je me souviens, après avoir parlé pratiquement pendant une heure, j'ai mis en exergue les cinq vocations, grandes vocations majeures de la loi coranique. Et à la fin, il y a une, je sais pas quel rôle jouait-elle. Bon, c'était une femme. La majorité, c'était des Noirs venus d'Afrique. Hein. Il y a plus de les églises sont vides. Il y a une faillite totale surtout dans l'Église de Rome, l'Église catholique. Alors c'est une Noire qui me dit oui, ce que vous avez dit, monsieur, c'est bien beau, mais là, franchement, quand nous lisons le Coran, la violence que dégage le Coran, puis la femme, elle est malmenée, elle est maltraitée, etc. Ah bon ? Je me suis tourné vers le père en question, sans citer le nom, je lui ai dit écoutez. Nous nous sommes mis d'accord de mettre en évidence ce qui pouvait nous rassembler en tant qu'êtres humains, pas les points doctrinaux sur lesquels nous sommes divergents. Il m'a dit, oui, mais bon, elle a posé la question. J'ai dit, moi, je peux pas me permettre de ne pas répondre. Je lui ai dit, alors écoutez, soit vous n'avez jamais lu le Coran, ce qui est pratiquement sûr à mon sens, à mon avis, mais apparemment, vous n'avez pas non plus lu votre Bible. Elle me dit, ah bon, comment ça? Ben, non, j'ai... Écoutez, il y a des Bibles derrière vous, parce qu'on était assis en U pratiquement. Prenez-la. Allez vers tel chapitre. Et moi, c'est des textes que j'ai toujours en mémoire, parce que je rencontre beaucoup de gens, surtout à l'époque, qui me parlent toujours de la violence de l'islam et du Coran. Vous savez, à un moment donné, je participais à une multitude de rencontres comme ça, de dialogues interconfessionnels, des assemblées de salons comme ça, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on y allait, on nous faisait la morale, quoi. Vous, les musulmans, vous devez vous réformer, vous devez sortir de cette sauvagerie dans laquelle vous plonge votre livre. Bon, enfin, on vous le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on suggère, c'est ce qu'on
insiste. Mettre de l'eau dans son vin, n'est-ce pas?
Oui, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin dans la mesure où on vous demande de vous diluer, de devenir un bon musulman qui laisserait facilement ses richesses se faire pomper par les lobbies sionistes, par les grandes puissances mondiales. Et derrière tout ça, c'est une affaire de gros sous, hein. Il n'y a rien de religieux ou de spirituel là-dedans. Et donc, à un moment donné, la femme, elle était gênée. Et ensuite, je me suis mis à lui parler aussi des droits de la femme et des droits de la femme dans la religion chrétienne et dans la religion juive. Et ma foi, j'invite les gens à lire, à s'informer sur les droits des femmes dans ces deux religions. Ouais. C'est une catastrophe. Malgré ça, les gens persistent à vouloir se réformer pour être aux normes occidentales de l'humanité. Alors que l'Occident, depuis bientôt 50 ans, ne cesse de se déshumaniser. Et on ne peut en aucun cas le prendre pour référence.
Pardon, Kamel Chekat. J'aurais aimé. Les gens ne lisent pas aujourd'hui. Vous leur demandez juste d'aller sur les plateformes numériques. Sur YouTube, par exemple, vous avez des contenus, des petits reportages de 2-3
oui,
minutes.
Allez,
des
qui
femmes,
synthétisent.
Où des femmes
oui.
témoignent en Israël,
longtemps.
Dans cette
oui.
entité
oui.
criminelle. Comment la religion leur est interdite? Elles n'ont oui. même pas le droit de prendre le Talmud ou d'entrer dans le périmètre
elles
des murs de lamentation.
Elles n'ont pas le droit d'hériter, elles n'ont rien. Et pire que ça, les soldats de Tsahal.
Mon Dieu, je n'aimerais pas
écrivez, Tsahal viole ouais. femme ou israélienne et vous allez voir. Non, mais
c'est pour ça qu'elle s'étonnait du comportement des djihadistes
du Hamas
à leur
oui.
égard.
Oui.
oui,
mais le problème, par exemple, quand on parle des droits de la femme, il n'y a pas longtemps, Youssef Islam alias Cat Stevens donnait une conférence. Et là, il y a une journaliste qui se lève et qui lui dit « Comment pouvez-vous accepter de faire partie d'une religion qui accepte la polygamie ?» C'était impensable pour elle. Il lui a dit « Alors, vous réfutez le fait, ou bien vous rejetez le fait qu'une religion accepte la polygamie, donc des unions qui se font sous le signe du mariage, où tout est clair, où les enfants appartiennent à des parents ?» Ça, vous le rejetez. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me poser cette même question quand j'avais des aventures à chaque coin de rue, à telle enseigne que je ne sais même pas combien d'enfants j'ai avec toutes les aventures que j'ai pu avoir avant l'islam. Alors, le fait d'avoir des aventures extra-conjugales ou illégitimes, ça ne vous pose pas de problème avec tous les dégâts que ça peut occasionner. Un homme marié, par exemple, à deux femmes, ça vous pose problème. Vous savez, je suis en train de vous parler de polygamie, je ne m'imagine pas marié à deux femmes. Mon cerveau ne l'accepte pas.
Vos congénères en rêve, Kamal Chakat.
Mais attendez, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui se plaide, hein, qui se plaide, attention, même par la science. Hein. C'est la nature humaine qui parle. Ça n'est pas uniquement un écrit divin. Donc, l'islam autorise la chose et l'a légalisée. Les Arabes avaient le droit d'épouser 100, 200, 300 femmes pour qui le pouvaient. L'islam a réduit le nombre à 4. Parce que au-delà de 4, ça sort du cadre humain, tout simplement. Ça déborde de ce que pourrait accepter la nature humaine. Et donc, pour revenir à notre sujet, ils sont comme ça. Ils ne regardent que ce qui pourrait, ou ils ne voient comme vérité que ce qui pourrait plaire à leur maître. Pourquoi ? Parce que lui-même est conscient de la faiblesse de sa propre religion. Et il ne peut se maintenir dans cette religion que lui-même a choisie que si ses ennemis d'hier et ennemis eschatologiques de demain acceptaient de le laisser.
Chakat, poursuivons avec notre projet qu'on a initié il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, parce que ça nous a quand même pris un peu de temps. Après, rappelez-vous, après Mukhtasar al-Ibadat d'Al-Akhdari, au sujet de la salat, de la prière canonique, nous avons initié juste après une série d'émissions autour des clés qui pourraient nous aider à nous affranchir des pesanteurs de la vie.
Oui.
Alors, on a traité 5 versets, je ne sais pas si vous voudriez les rappeler ou pas, mais en tout cas la sixième elle est très importante et surtout par rapport à ce dont nous évoquons l'Isra ou le Mi'raj.
Oui.
Alors le verset proposé Kamal Chakat, c'est celui de la
Sourate Shura, la consultation.
Verset 43,
oui.
Et je trouve qu'il est intimement lié à ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wasalam, juste avant d'entrer plein pied dans cet épisode du voyage nocturne et du voyage céleste, l'Isra ou le Mi'raj.
Donc le verset nous dit « وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Donc il est fortement indiqué dans des périodes difficiles de faire preuve d'endurance et de rester fidèle à ses valeurs, à ses engagements vis-à-vis de Dieu, à tout ce qui a engagé la personne, surtout dans l'action qui a fait qu'elle se retrouve dans l'embarras.
Notre premier modèle, Kamal Chakat, c'est le Rasulullah alayhi sallam.
Absolument.
Il était dans cette configuration.
Oui, absolument.
Et Dieu, subhanahu,
l'a récompensé par... Mais attendez, même ses compagnons, ils étaient dans cette configuration. Abu Bakr, quand est-ce qu'on a commencé à l'appeler Abu Bakr Siddiq?
Justement.
C'est le crédule, en quelque sorte. Mm. Quand on est venu lui dire, Inna sahibak, ton ami dit qu'il est allé hier vers Jérusalem, il a vu ci, il a vu. Il avait affaire à des gens qui étaient beaucoup plus enclins à mentir qu'à dire la vérité. Il a dit, In kana qad qala, faqad sadaq. S'il l'a dit, c'est qu'il a dit vrai, tout simplement.
Ouais.
Ensuite, il leur
un
a expliqué,
banal.
Oui, non événement, carrément.
Ouais.
Il leur a dit, écoutez, moi je le crois quand il me dit qu'il reçoit une révélation venant du ciel. Et vous voulez que je ne lui témoigne aucun crédit quand il me dit qu'il est allé ici sur Terre vers tel ou tel endroit. Vous voyez le cerveau dans sa forme intelligence la plus pure.
Cette rétribution a été amplement méritée, Kamal Chakat.
Absolument.
Tout ce qu'il avait vécu.
Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui auraient pu vivre tout cela en étant imaginant qu'à l'époque même de la colonisation, l'on ait eu accès aux réseaux sociaux comme on l'a actuellement. Qu'aurait consigné l'histoire comme fait abject attribué à la France? Quand j'oublie toujours son nom, ce journaliste français qui est mis à l'index actuellement, quand il a dit « Non, nous n'avons pas fait comme les nazis, c'est les nazis qui nous ont copiés finalement.
Ouais. »
Et à juste titre, même nos morts n'ont pas été épargnés.
Qui a fini par être éjecté d'ailleurs.
Hein. Oui, bien sûr, parce qu'il a dit la vérité.
Le prix a été fortement payé.
Oui.
Kamel Chekat, vous disiez lors de la précédente émission qu'Abu Talib était un bouclier pour le prophète alayhi salatu wasalam au moment où Sayyida Khadija constituait toute son armée.
Oui.
Alors, il y avait le décès de ces deux personnes chères qui l'ont beaucoup soutenu, le blocus des incrédules de la Mecque.
Oui.
Son départ à Taif, il a été lynché, lapidé par les fous et les enfants de Taif.
Absolument.
Par la suite, Kamel Chekat, à un moment, même les grands savants de l'islam disent, lorsque les épreuves atteignent un climax, attendez-vous à ce moment-là.
Oui, c'est pour ça que nos savants ont un adage, quand plus les choses se corsent, plus le dénouement est proche.
L'infirad.
Oui, c'est-à-dire ça va se serrer. En fait, c'est une courbe.
C'est les lois de la physique.
C'est les lois de la physique. C'est des lois, d'ailleurs, c'est les lois immuables même de la physique, du cosmos, etc.
Et à ce moment-là, Kamel Chekat, le prophète alayhi salatu wasalam, dans ce moment que nul ne voudrait vivre à sa place, à ce moment, il récite un doha.
Oui.
Quelle est la valeur de ce doha, Kamel Chekat?
Allahumma ilayka ashku dhafa quwwati wa hawani 'ala an-nas ila anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi
ya arhamar rahimin ya rabbil 'alamin.
Oui, je ne connais pas cette partie. D'habitude, je passe directement anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi.
J'écoutais Zid Khair.
Oui, il a menti. Oui, peut-être que c'est une autre version. Il a menti kiloni, à qui me remets-tu? Il a ba'idin yatajahamuni, donc à un étranger, am ila qaribin mallaktahu amri. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أو بيان ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك وأن يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
Avant de traduire Kamel Chekat,
oui.
Ce doha doit être récité par tout le musulman comme il s'agit du doha de Noun.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin.
Dieu a promis aux musulmans de les sauver de ce qu'ils vivent comme épreuve, comme il a sauvé Noun. Est-ce que ce doha aussi peut être servi, peut être utilisé à toutes les époques, par tous les musulmans?
Pourquoi pas? En tout cas, vous savez, ce doua, il a été rapporté entre autres par Ibn Ishaq. Et dans les dernières décennies, il a été remis en cause par Cheikh Nasruddin al-Albani, bien entendu.
Et pourtant, il figure dans le Kitab Shifa al-Qadariyya.
Oui, chez beaucoup de grands savants.
Exactement, Ahmed Dimashqi, Imam Suhaili.
Tout le monde. Tout le monde l'a rapporté.
Qu'est-ce qu'il trouve à redire le Sir Albani?
Je ne sais plus. Je me souviens, ça remonte, je crois, à 83, 82. Quand je lisais Fiqh al-Sira de l'imam Mohamed al-Ghazali, al-Mu'asir, rahmatullahi alayhi, parce que c'est l'Albani qui a fait Muraja'at al-Ahadith. Quand on étudie bien ce doua, on se rend compte, comme disaient certains, « Yakhruju min mishkat al-Nubuwa ». Les propos en langue arabe, quand on a un tant soit peu de goût, ou d'instinct linguistique, on se rend compte que ce sont là les propos du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Mais même si ce hadith est un hadith considéré da'if, il ne concerne pas le halal ou le haram. Ya Allah, c'est à toi que je me plains de mon impuissance et du mépris des gens. Toi, le très miséricordieux, à qui m'abandonnes-tu? À un ennemi renfrogné et rude ou à un proche à qui tu as fait détenir mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère, malgré que ta grâce soit plus vaste pour moi. Non, normalement, le traducteur n'aurait pas dû mettre que après malgré. Donc, malgré le fait que ta grâce soit plus vaste pour moi, je me réfugie et me remets à la lumière de ton magnifique visage, qui illumine les cieux et la terre, qui éclaire les ténèbres et qui régénère l'état de ce bas-monde et de l'au-delà, et que tu m'incombes ta colère, de tout autre mal que tu pourrais m'infliger. Enfin, à la fin, il dit, ou de ton désagrément, j'implore ta faveur jusqu'à ce que j'obtienne ton agrément, et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, rapporté par Tabarani.
Il contient une force terrible, ce dua.
C'est pour beaucoup de grands savants, c'est un dua qu'il est bon de lire dans des moments de détresse.
Mm-hmm.
Et ce qui est bien là encore, il est là le message de l'islam. Ruqay. Ce raffinement. Imaginez que vous soyez, comme Al-Khidr par exemple, assisté d'une puissance divine qui vienne vous porter secours à tout moment. Quand vous le voulez, vous avez un ange qui vient et qui vous dit « Est-ce que tu veux que je les désintègre ?» Et vous avez un messager, parce qu'il a été élu pour accomplir cette mission, pour faire cet apostolat, qui dit « Non, je préfère que Dieu sorte de leurs entrailles, de leurs seins, des gens qui l'adorent sans rien lui associer. »
Kamel Chekat, vous faites bien d'évoquer Sayyidouna al-Khidr alayhi salam, parce qu'on parle d'une évocation dans les contenus sur le net. Il y a comme ça parfois des fois des contenus qui disent si vous récitez cette parole de Sayyidouna al-Khidr, eh bien vous aurez ceci, cela, ou la prière que vous ferez après à Dieu sera exaucée. Oui. Et parmi celles-là, justement, et vous allez voir qu'il y a une... ça se termine avec la même phrase que dans le doigt de Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. Alors, ces fameuses paroles de Sayyidouna al-Khidr, c'est Bismillah, masha'Allah, la yasuku al-khayra illallah, Bismillah, masha'Allah, la yasrifu su'a illallah, Bismillah, masha'Allah, ma kana min khayrin fa min Allah, Bismillah, masha'Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Oui. Le prophète Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam termine par la hawla wa la quwata illa billah.
Oui.
Illa bik, en s'adressant à Dieu. Quel est le poids de cette phrase?
Oh, écoutez, là, c'est vous demandez quelque chose qui nécessite normalement toute une émission. C'est reconnaître à
son
Dieu
son impuissance d'abord à soi.
Ça reconnaître, c'est reconnaître à Dieu la pleine puissance, ouais. Tout simplement.
S'il y a pleine puissance, ça veut dire pour nous c'est zéro puissance.
Nous partons de ce principe. Nous sommes incapables de tout à moins que Dieu ne le veuille. C'est-à-dire que ma réussite est entièrement tributaire de Dieu. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vraiment résoudre les problèmes, achever les choses et faire en sorte qu'elles se réalisent. Sinon, l'être humain, quand bien même il ferait un effort, son effort reste, ou bien sa réussite reste tributaire du bon vouloir de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de sa volonté.
أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا الله.
Oui, oui, absolument.
D'accord.
C'est-à-dire que vous reconnaissez votre impuissance tout en reconnaissant la pleine puissance de Dieu ou la toute puissance. Généralement, on ne parle pas de pleine puissance, on parle de toute puissance de Allah subhanahu wa ta'ala dans ces conditions.
Est-ce qu'on peut dire, Kamal Chekat, que l'Isra ou le Mi'raj a été une réponse à cette prière de Sidna Rasulullah, ou bien les chemins ont été déjà tracés il y a des millions d'années?
Écoutez,
est-ce que Doha y est pour quelque chose?
Oui, nous avons d'ailleurs même un hadith authentique qui dit « La yidfa'u bien la yasrifu al-qadara ou illa Doha ». Quand vous lisez, par exemple, dans les fameux versets qui concernent justement ces clés qui vous affranchissent de ce qui pourrait faire office de pesanteur ici sur Terre, nous avons étudié ce verset qui est la quatrième clé, où là où il est dit « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Illa ma kataba Allahu lana. Où ça? Où est-ce qu'il a prescrit tout ça? Dans ce que nous appelons lawhul mahfoud, c'est-à-dire les tables gardées. Ça veut dire que ce qui va vous arriver, c'est ce qui a été écrit sur ces tables gardées. Mais attention, ces tables gardées ont été écrites, ou ce qui a été écrit sur ces tables gardées, a été écrit sur la base de ce que vous-même, vous avez choisi comme action au moment où le problème est survenu. Donc, soit il va se corser pour vous, soit il y aura un dénouement. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que le temps qui va du passé vers le futur pour nous ne va pas dans le même sens pour Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a la faculté de voir le futur comme nous avons la faculté de puiser dans notre passé. Et à l'heure actuelle, comme nous l'avons déjà vu dans
le
une
bloc
émission,
universe et la rétrocausalité.
La rétrocausalité.
Mmh. Le bloc universe
nous sommes,
aussi.
Oui, nous sommes maintenant dans des théories physiques qui veulent que le temps n'obéisse pas à cette flèche rectiligne que nous connaissons, même pour nous les humains. Donc, quand bien même il y a, nous savons que tout est écrit, rien ne nous empêche de rester dans l'action, dans tout ce qui nous arrive. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aux gens pour essayer de donner une idée du temps, je leur dis, écoutez, le temps c'est comme une bibliothèque hyper large que vous avez face à vous. Chaque livre est une séquence du temps. Et peut-être, si ça se trouve, tout est en train de se réaliser en même temps. C'est ce qu'il va falloir comprendre. Et à partir de là, vous êtes là sur Terre pour une durée bien déterminée, œuvrer dans le bon sens et éviter d'œuvrer dans le mauvais. Ça s'arrête là. Mais en tout cas, quand bien même vous vous retrouviez dans les problèmes les plus
complexes,
vous êtes toujours tenu de faire tout ce qui est en votre possible pour vous en sortir. Mmh. C'est ça la foi en Dieu. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il subissait un blocus dans les faubourgs de la Mecque. L'oncle meurt, l'épouse meurt, les gens enfin, c'était la famine, ouais, les gens peut-être mouraient de faim, le blocus, il était terrible, ça a duré 3 ans, mine de rien. C'est là que, c'est un moment de l'histoire des Mécois où l'arabité joue un rôle terrible, dans la mesure où il s'est trouvé parmi ces Mécois des Arabes qui sont venus dire « nous n'acceptons pas ça ». Nous ne pouvons pas. Notre
des
humanité.
Juste des nobles.
Oui.
Ça existe aujourd'hui à l'Occident.
Rijla, comme on dit. L'esprit chevaleresque ne peut accepter ce genre de choses, ce genre
cette
de comportement.
Cette mafoutoua dont parlait Abdurrahman
Soulami. C'est ça. Donc, et c'est pour cela que ce corps, quand il a été déterminant dans l'essor qu'a pu connaître l'islam par la suite, avec toutes ces valeurs qui ont élu ces gens du désert à être les proches du dernier des messagers, pas plus ni moins. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'il avait subi, il n'est pas resté figé, il n'était pas là à dire « Ah oui, va falloir faire preuve de patience ». Quand il est dit « Laman sabara wa ghafara », celui qui endure et pardonne, parce que par la suite il a pardonné.
« Ma
tadunnuna anni fa'ilun, idhabu fa'antum ut-tulaqa ». Donc c'est là on parle de sabr avec tout ce qui pourrait en découler comme pardon, comme miséricorde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet état de crise, il est allé jusqu'à Taif en sachant qu'il était possible qu'il subisse ce qu'il avait subi. Et il a finalement subi le plus mauvais des sorts. Et là encore, il va revenir vers ce principe qui est « wala man sabara wa ghafara ». Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution des affaires.
Il aurait pu compter sur les bonnes grâces du Seigneur, Kamal Chekat, et attendre que Dieu agisse avec les mécréants de la Mecque.
Ça ne peut pas.
C'est un prophète, maçon.
Ça ne colle pas avec l'esprit
ah
des
bon,
prophètes.
Hein?
Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Vous avez un prophète qui est resté là comme ça, bras croisés face à une crise, à ne rien faire. Tous les prophètes ont été proactifs. Tous les prophètes sont venus avec un paradigme bien déterminé.
Pourquoi Kamal Chekat?
Ensuite, c'était les 7 ou les 8 habits de
Covey
ou Franklin Covey. C'était la même chose. C'est-à-dire que c'était des gens qui
ont même fait beaucoup plus que leur société, que leur population.
Absolument.
L'importance du doua, vous avez dans la sourate Ghafir, Dieu subhanahu qui vous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Je lisais hier le kitab al-fawaid de Ibn Qayyim Jawziya, il disait que l'ibada était doua.
Écoutez, Ibn Qayyim ira plus loin dans al-fawaid et même je pense dans Bada' al-fawaid. Vous savez, actuellement dans nos mosquées, le jour du vendredi, le khutbah, l'oraison, elle se solde par un doua. Bon, généralement, certains savants sont d'avis que l'imam n'a pas à lever les mains pendant, alors qu'il est sur la chaire. Et d'autres ont expliqué que ça peut se faire. C'est pas une bid'a, comme le disent les super musulmans. On va les appeler comme ça pour être plus ou moins gentils. Mais ce qui me tue, moi, c'est les gens qui sont là. L'imam est en train de faire les prières. Allahumma inna nas'aluka ma'aza imam ghafiratika as-salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr. Je me souviens quand on était de pauvres musulmans innovateurs, comme disent certains, kuntoufil bida, vous entendiez toute la mosquée qui disait dans un même élan Amin, Amin, Amin. Et là, les gens sont là. L'imam est en train d'adresser à Dieu des suppliques. Et d'ailleurs, je suis toujours avec un voisin et ami, nous montons ensemble à la mosquée. Quand l'imam commence à faire des doigts, moi je lève les mains. Pourquoi? Parce que j'ai 84 hadiths authentiques qui disent qu'il faut lever les mains.
Que le message
يستحي أن يرد يدي عبديه خائبتين.
Oui, exactement.
Oui, يستحي.
C'est pas une preuve, là?
C'est plus qu'une preuve. Et les gens sont là. Il y a même des gens qui vous regardent comme ça. Oh, regarde les innovateurs. Non, mais attends. Le prophète صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر إبطه, jusqu'à ce qu'apparaissent ses
aisselles.
Et jusqu'à ce que tombe sa cape.
Ouais.
Vous savez, par moments, il levait tellement les mains dans le ciel que il y a un hurlu-berlu qui était imam, Falharm al-Makki, carrément, qui a dit, quand on prie Dieu pour de bonnes choses, c'est la paume des mains qui doit faire face au ciel.
Pour recevoir les bienfaits.
Et quand c'est des doigts pour que s'accomplisse une punition divine, c'est les dos de la main qui doivent faire face au ciel. Alors les gens, ils sont venus me dire, attends, quand on prie Dieu pour des bonnes choses, on fait comme on a l'habitude de voir les gens, sinon il faut retourner les mains. Je leur ai dit, mais attendez, bande d'ignards. Le hadith, tel qu'il est rapporté par les narrateurs, dit, il a tellement levé les mains vers le ciel, en regardant le ciel, que le dos des mains faisait face au ciel et que les paumes des mains faisaient face à son visage. Je vous dis ça pour que vous arriviez à schématiser la chose. C'est comme un retournement. Je tourne mes mains vers le ciel. Il est clair que quand je les lève trop, c'est le dos des mains qui va faire face au ciel. C'est pas le contraire.
Oui.
Et donc, le problème est là. Le problème, c'est que Ibn al-Qayyim, quand il parle, ud'uhu tadarru'an, il dit, il est considéré comme une atteinte à Dieu de l'implorer sans lever les mains. C'est ce que dit Ibn al-Qayyim. Mais voilà, Ibn al-Qayyim, apparemment, c'est aussi un petit mubtadi' d'il y a 6-7 siècles.
Comme tous les précédents.
Comme tous les précédents et comme tous ceux qui vont venir ensuite.
Kamash Kat, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'aurais voulu vous demander, après avoir établi un parallèle avec ce qu'a vécu le prophète
al-Islam
et tous les musulmans, je parle du blocus de la Mecque et le blocus de Gaza, bientôt 3 années. Est-ce qu'on peut espérer un dénouement heureux comme pour les musulmans, les premiers musulmans?
Écoutez, ce que les gens ne veulent pas comprendre. Moi, quand je lis ce fameux hadith qui dit « La taqoumu sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahoud » fi ma'na ma qala wa lan tajida hajaran aw shajaran illa wa yaqul ya muslim ya abdullah ta'ala hada yahudiyun faqtul
harmajdun.
Oui, l'un des signes avant-coureurs de l'heure dernière est qu'il naisse une guerre ou qu'éclate une guerre entre les musulmans et les juifs. Maintenant, qui sont les Yahoud? Attention, là, il va falloir faire tout un travail historique parce que le Coran emploie une terminologie très spécifique à un moment spécifique. C'est ce qu'il va falloir comprendre. Mais bon, les Juifs sont les Juifs. C'est ces mêmes Juifs qui ont été fourbes avec Moïse, qui ont tué des prophètes, etc.
Les marchands du temple.
C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Juifs qui soient des gens honnêtes ou des gens bien.
Soumis à Dieu.
Mais parmi, bien sûr, peut-être, on ne peut en aucun cas se porter juge sur la conscience des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, quand le hadith me dit, حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِ, et dans ces Yahouds, n'y aurait-il pas des petits arabes, comme ceux qu'on voit actuellement, les fameux traîtres?
Ouais.
Pourquoi ne ferait-il pas partie des gens qui seraient dénoncés par les végétaux et les pierres? Des gens que nous voyons actuellement, qui sont le premier soutien des sionistes contre les musulmans. Quand le hadith vous dit qu'un jour viendra où les végétaux, enfin les arbres et les pierres diront Ô toi musulman, toi serviteur de Dieu, viens ici, voilà un juif derrière moi, tue-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injustice, la barbarie, l'inhumanité de ces gens-là atteindra un point tel que la nature se liguera contre eux. Moi, quand je lis ce hadith, quand je lisais ce hadith, c'était il y a de cela 10, 15, 20 ans ou même plus, c'était un hadith qui parlait d'un signe avant-coureur de l'heure dernière qui nous plongeait dans une sorte de film science-fiction comme ça où les ruptures de l'habitude, tout ce qui est incroyable se mêlerait à la vie de tous les jours, le monde des miracles de je ne sais quoi. Mais maintenant, l'inhumanité que je suis en train de voir actuellement a atteint un point que je n'aurais jamais suspecté auparavant. Il y a 5-6 ans de cela, je n'aurais jamais cru que les Juifs arriveraient à faire ce qu'ils sont en train de faire et à se faire une publicité. Ils le font au su et au vu de tout le monde, en se filmant carrément. Je vais associer à cela ce courant sataniste qui va faire la consécration des LGBTQ. Et à un moment donné, je me disais, mais pourquoi mettre autant de moyens pour féminiser la population masculine dans le monde? Eh bien, parce qu'on veut tout simplement plaire à outrance à Iblis, qui s'inscrit actuellement, qui va entrer dans sa phase dictatoriale. Il a dit, je leur donnerai l'ordre et voici ce qu'ils feront, voici ce qu'ils feront. Ça veut dire que, à un moment donné, Iblis, qui était un charmeur, va se transformer en dictateur. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Et ils le feront. Et ces gens-là sont en train de tout faire pour s'attirer les grâces d'Iblis, qu'ils ont élu pratiquement comme seigneur, comme dieu, comme divinité. Donc, le jour où ce hadith se réalisera, dites-vous bien que l'on aura atteint le paroxysme de l'inhumanité, de la barbarie, de la monstruosité, de la cruauté de ces gens-là qui se sont ligués contre Dieu. Et ma foi, si je prends tout cela en considération, je me dis que nous ne sommes qu'au début de ce que peut-être nous allons voir. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, et je l'ai déjà dite. Nous sommes sûrs du bon dénouement de toute cette histoire. La question que je me pose,
en faveur des
Palestiniens, en faveur de la justice, de l'humanité, des bonnes valeurs. Moi, le petit musulman qui vous parle, quand cela arrivera, je ne sais pas si je serai vivant ou pas, j'espère ne pas assister à cela, honnêtement.
Je pense que vous y serez, Kamal Chakrata.
J'espère que non. Là, ça me fait tellement peur, surtout avec tout ce que vous m'envoyez comme hadith, et puis Omar, et puis Hussein Nasr, et j'en passe.
La phobie.
Oui, le problème est que moi, où est-ce que je serai? Je serai du côté de ceux qui seront loués pour leurs actions ou de ceux qui seront maudits pour leur inaction. Toute la question est là.
Rabbi qaddal khair, Kamal Chakat, ce hadith qui nous parle d'Armageddon, pas le Malham al-Kubra, parce que le Malham al-Kubra sera avant l'avènement de Mahdi.
Oui.
Alors, on a signalé quelques prémices à ce grand événement. On disait que durant ce déluge d'Al-Aqsa, il y a eu le pont artificiel ramené par l'oncle Sam, qui a été bouffé par les vagues.
Oui.
Il y a eu la terre qui a causé des démangeaisons et même des maladies cutanées pour l'armée d'IDF.
Oui. Je ne sais pas pourquoi on les appelle les IDF, alors que c'est pas une armée de défense, c'est une armée barbare, génocidaire.
Elle se défend,
la
pauvre, oui.
C'est ça.
Dieu subhanahu dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Quelle devrait être notre attitude vis-à-vis des Arabes et des musulmans qui soutiennent?
Écoutez, normalement, même si vous ne jouissez pas d'une bonne culture, d'une bonne vision, même si vous n'avez aucune clairvoyance, les choses sont très simples. Cette entité sioniste et tout ce qui gravite autour ou tout ce qui lui vient en appoint, c'est le mal. Quiconque s'approcherait ou subirait quelque attraction que ce soit vis-à-vis de ce corps malfaisant fait partie du mal, tout simplement. Normalement, vous prenez le nom de Netanyahou, vous le jetez quelque part, tous ceux qui s'en éloignent, qui s'en dispersent, sont des gens bien. Tous ceux qui restent sur place sont des gens mauvais. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et c'est pour ça que le verset nous dit « Quiconque les prend pour alliés fait partie d'eux. Il est considéré comme eux et Dieu ne guide pas les gens injustes vers le droit chemin. » والله لا يهدي القوم الظالمين. Soyons sérieux.
C'est vrai que c'est un chemin pavé d'embûches et d'orties.
نعم.
ربي سهل نطريق.
Amin ya Rab. Amin.
Merci à vous Kamachakat, nous arrivons au terme de cette émission qui a comporté beaucoup de chapitres et j'espère que les messages ont été tous bien perçus Inch'Allah. Par les uns et les autres. Merci à nos amis techniciennes, merci à Nabila et merci à Marwa qui fait un excellent travail. Marwa, merci beaucoup, je lui souhaite beaucoup d'années.
De réussite Inch'Allah.
Beaucoup d'années, beaucoup de réussite au sein de la Radio Nationale. Merci à vous qui nous avez suivis, n'oubliez pas de faire un tour sur x.com et notre page Au cœur de l'Islam chaîne 3, ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours et vos commentaires. Merci à vous, bon week-end, au revoir.